Et c'est l'heure de Parlons Rugby sur Millennium avec Damien Simon. Bonjour Damien.
Bonjour Mathieu.
Alors aujourd'hui on va parler du RC Van, une success story bretonne. Qui aurait pu imaginer il y a seulement 10 ans qu'à l'aube de la 23e journée de Pro D2, le leader du classement, candidat désormais déclaré à la montée à l'étage supérieur, le prestigieux Top 14, était un club breton. Même dans les rêves les plus fous des amateurs de ce jeu en terre bretonne, l'objectif aurait paru indécent. Et pourtant, le RC Van fait désormais partie des grosses écuries de ce championnat, long comme un marathon, mais qu'il faut pourtant finir au sprint une fois les phases finales venues. Que de chemin parcouru depuis l'anonymat de la Fédérale 3, la rusticité du stade Jo Courtel, l'amateurisme à la bonne franquette et le regard souvent condescendant des grands clubs du Sud, amusé de voir cet intrus venir mettre le nez dans leur précaré. Tout a changé ou presque en 10 ans à Vannes, et alors que le VOC, le club de foot, a plongé, le RCV a connu l'exact chemin inverse, une véritable explosion. De quelques dizaines de bénévoles, on est passé à une véritable armada qui œuvre toute la saison à différents niveaux d'infrastructures, d'entraînement désuètes. On est passé à un centre de performance de très haut niveau, le Dossi Park, que ne renieraient pas certaines écuries du top 14. D'un stade de 850 places en bord d'autoroute, on est passé à un écrin de près de 12 000 places en plein cœur de ville, plein comme un œuf à chaque match joué à domicile. Et en plus de révolutionner le regard que les gens portent désormais au rugby breton, le RC Van a transformé sa ville désormais à 100% derrière ses rugbyman. Une véritable success story à la bretonne dont nous allons discuter aujourd'hui avec notre invité du jour, responsable du pôle rugby à Ouest-France, ayant suivi à Van lors de la montée et des débuts en Pro D2, Laurent Frétinier. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu. Bonjour Damien.
Salut Laurent.
Alors Laurent, est-ce qu'on peut parler un peu, je crois que vous vous connaissez bien déjà avec Damien, hein?
On s'est rencontrés sur les terrains il y a quelques années, on s'est frotté un petit peu lors des derbies Lannion-Saint-Brieuc notamment.
Ouais.
Damien était en deuxième ligne, donc avec sa taille, et moi j'étais talonneur, donc il essayait de me chatouiller un petit peu les oreilles et le nez, mais bon, heureusement... On a souvent gagné ce derby avec Saint-Brieuc, il ne va pas être d'accord.
Mais ça me fait rigoler.
Ils ont gagné ou pas, Damien?
Non, c'est match nul à la buvette derrière.
C'est ça, exactement. C'est bien résumé.
Alors, Laurent, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu, de tes origines, ton histoire avec le jeu fin?
Moi, c'est une vieille passion de gamin. Pourtant, je suis breton, justement, ça rentre bien dans le sujet. En revanche, je suis venu tard à jouer. J'ai joué, comme je suis à Ouest-France, j'ai joué un petit peu au gré de mes affectations. J'ai joué à Perros-Guirec. J'ai joué 3 saisons à Perros quand j'étais en poste à Lannion, tout début des années... Mais à la fin, de 99 à 2001.
D'accord.
Après, j'ai joué à Carhaix, j'ai joué à Quimper, j'ai joué à Saint-Brieuc. Voilà. Enfin, j'ai joué jusqu'en Fédéral 3, donc niveau modeste, mais j'ai quand même connu la Fédérale. Donc c'est sympa.
Ouais.
Et puis notamment, j'ai été champion de Bretagne à Jo Courtel avec Quimper face à Grandchamp et en honneur. Et c'est un souvenir assez incroyable parce qu'on était sur le terrain de Vannes qui était déjà en Fédéral 1 à l'époque et c'était plein comme un œuf à Courtel, comme tu disais. C'est un sacré souvenir, ouais.
Alors aujourd'hui, Damien, on va parler du RC Van, la success story bretonne.
Ouais, alors un petit peu de contexte historique, on va dire. Hein. Ce club du RC Van, il est fondé en 1950 et il devient, lors de la saison 2016-2017, le premier club breton donc à évoluer au niveau professionnel de par sa montée en Pro D2. Donc ça, c'est pour faire vite. Dans le détail, en fait, ce club, donc fondé en 1950... La progression est relativement lente, hein, puisqu'en fait il va être même mis en sommeil en 1953, je crois.
Oui, c'est à cause de la guerre d'Indochine.
Exactement.
C'était des militaires, en fait. Les militaires sont partis à faire la guerre d'Indochine.
Exactement.
Et il a été mis en sommeil, il renaît en 66, en fait.
63-66,
avec un prof de sport.
C'est ça, absolument. Donc en 1981, ils sont qualifiés pour le championnat de France honneur et ils retrouvent donc en 1981 la 3e division, donc Fédéral 3. En 1997, ils accèdent à la Fédéral 2, si je dis pas de bêtises. Hein, donc vous voyez, on est parti de 1950, on est en 1997 pour accéder à la Fédéral 2. Et puis, Donc en 2006, le RC Van accède à la Fédérale 1. Donc vous voyez quasiment 10 ans passés en Fédérale 2. Et donc 2006, Fédérale 1. En 2015, donc l'ambition déclarée des dirigeants est la Pro D2. Et donc lors de la demi-finale aller, le 8 mai 2016, le RCV va s'imposer sur la pelouse de Massy 32-31. Et pour le match retour le 14 mai 2016, Van bat Massy, donc déjà à la Rabine, je me rappelle, j'y étais. Et accède donc à la Pro D2, donc c'est une première pour un club de rugby breton, hein, puisque jamais un club de rugby breton n'avait accédé à ce niveau. Depuis, le parcours de Van en Pro D2 est plutôt assez exceptionnel pour une équipe qui arrivait, quoi. On peut noter notamment lors de la saison 2018-2019, hein, le RCV va s'imposer contre le Stade Montois en barrage, c'est-à-dire en quart de finale, en gros, le 12 mai 2019 au Stade de la Rabine. Une victoire 50-10, se qualifier pour la première fois de son histoire en demi-finale, donc de Pro D2, hein, et va s'incliner face au leader Brive, donc défait 40-20 au Stade Amédée Domenech. La saison 2019-2020 est un peu plus poussive, hein, ils finissent 8e. En 2020-2021, ils finissent à nouveau 2e du classement du Pro D2, c'est le fameux championnat pendant la période du Covid, là. Et donc ils se qualifient directement pour la demi-finale contre Biarritz, donc c'est une demi-finale qui va se jouer à la Rabine. Et malheureusement, pour tous ceux qui ont suivi ce match, ça a été vraiment une défaite extrêmement cruelle, hein, puisqu'ils perdent d'un point, 34-33, avec un essai du talonneur Biarro à la toute dernière minute du match, et qui les prive d'une finale contre Perpignan, qui aurait pu déjà les voir monter en top 14. La saison d'après, pareil, est un petit peu délicate en 2022, puisqu'ils finissent 11e. Et enfin, la saison dernière, Van termine 5e de la saison régulière, retrouve le dernier carré de la compétition et va éliminer en quart de finale Nevers sur son propre terrain, donc à Nevers. Ça, c'est quelque chose d'assez rare. Hein. Je ne sais même pas si c'est pas la première fois qu'un club arrive à s'imposer à l'extérieur sur une phase finale. Victoire 20-17. Et ils vont s'incliner en demi-finale à Oyonnax, sur le score quand même de 26-21, donc de très peu. Donc voilà, on peut dire qu'ils étaient déjà dans les clous. Et donc on le rappelle, tu l'as rappelé Mathieu, ils sont aujourd'hui en tête du classement de Pro D2, ouais. Égalité avec Béziers. Et ils font très clairement partie des gros prétendants pour la montée en top 14.
Alors pour compléter le panorama que dressait Damien, ce qui saute aux yeux, Laurent, dans cette histoire du RC Van, c'est cette lente progression vers les sommets. Bon, Rome ne s'est pas fait en un seul jour, semble-t-il.
Oui, bah, ils ont pris leur temps, ils se sont structurés. Quand ils étaient en Fédéral 2, Jean-Noël Spitzer, qui est devenu coach en 2005... était joueur lui-même. Après, il est devenu entraîneur, mais pas responsable de l'équipe en Fédéral 1. Voilà, c'est cette montée, cette lente progression avec la structuration, avec un président à l'époque, Alain Berthe, qui a œuvré énormément aussi pour le club. La structuration avec les partenaires. Surtout la lente structuration du club au moment de la Fédérale 1. Il faut savoir que Van est en concurrence avec le VOC, qui est alors en Ligue 2. Et pourtant, le club continue à grandir à l'époque. Là, désormais, le foot est un peu mort à Van et le rugby a vraiment pris l'ascendant. Mais ça, c'est lors de cette maturation, il faut savoir que quand même, le rugby qui était une forme d'ovni, avait aussi la concurrence du football, et ça prouve la force des dirigeants de l'époque d'avoir réussi à s'imposer, quoi. Jean-Noël Spitzer, il résume ça, il dit que Van n'a jamais perdu un match, n'a jamais connu d'échec lors des matchs importants de maintien ou de montée, lors des 15, 20, peut-être dernières années, en fait, ils ont toujours su être présents. Alors il y a, on pourrait dire qu'il y a une part de chance, de réussite, mais il y a aussi, la force de certains clubs dans leur structuration, de savoir répondre présent dans les moments importants, que ce soit des moments quand il faut se maintenir, des moments où il faut monter. Et c'est vrai que c'est un modèle du genre, finalement, faire 10 ans Fédéral 3, 10 ans Fédéral 2, enfin peut-être un peu plus, 10 ans Fédéral 1. Alors, ils bénéficient d'un contexte, ils sont dans une poule élite où peu de clubs peuvent aspirer à la montée parce qu'avec des gros problèmes de financiers à l'époque, mais ça n'enlève rien à la montée parce que Massy était le grand favori. Voilà, c'était... Alors, en revanche, ils sont pas champions de France parce que c'était à cette époque de poule élite, on joue de Fédéral 1 en tout cas, et ils jouent, ça s'appelle un access match en aller-retour, mais il n'y a pas de titre de champion de France décerné. Ouais. Et le seul champion de France de Fédéral 1 breton, c'est le REC il y a 2 ans. Voilà, c'est juste pour préciser, mais bon, Van est bien en Pro D2 depuis, et leur force aussi en Pro D2, c'est la première année est très très compliquée. Ils jouent le maintien lors du dernier match à domicile contre Bourgoin, ils gagnent 40 ou 45-0 de mémoire. Et c'est d'avoir su se maintenir, parce que le plus dur, c'est la première saison, et une fois la marche avant est enclenchée, les moyens arrivent, ils arrivent à recruter plus fort, et voilà. Mais c'est un peu une des parties du secret, parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients dans la recette du succès du RC Van, on va sans doute les voir. Mais évidemment, j'ai parlé de Spitzer, il y a Spitzer et son staff, il y a la Rabine, il y a l'identité bretonne, la formation, il y a beaucoup beaucoup de choses dans ce club en fait.
Alors on va parler du basculement dans le monde pro, l'aventure de la montée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu par le menu, puisque tu l'as suivi de près, ce point de bascule finalement qui a été cette ascension du RC Van à la Pro D2, c'est-à-dire dans le monde du rugby pro?
Alors en fait, moi j'étais, comme Damien, j'étais lors du match de la montée, c'était quelque chose de complètement féerique, extatique, c'était incroyable, envahissement de pelouse. Et c'est vrai que la montée, déjà, c'est la montée de Van, c'est la réussite d'un club, mais il y a une phrase de Thierry Canal, qui était l'intendant à l'époque, et qui dit, c'est pas seulement Van qui est monté, mais toute la Bretagne, c'est tout le rugby breton ce jour-là qui gagne. Parce qu'en fait, Van a toujours été cette locomotive et le revendique encore pleinement aujourd'hui. Et Thierry Canal, en fait, il symbolise bien cette phrase parce que lui, sa fille a joué au Stade Rennais rugby et son gendre, c'est le manager, n'est autre que le manager du REC, vous voyez. Donc, c'est quand il parle que la victoire du Van symbolise bien le rugby breton, il sait de quoi il parle. Van monte ce jour-là et la structuration se fait dans cette première année est assez compliquée parce que le staff est très réduit par rapport à un staff professionnel, même par rapport maintenant au staff élargi, même qui à l'époque il y a Jean-Noël Spitzer et juste avec Simon Babluche et j'ai un petit peu de mémoire avec
Wilfried Lahaye.
Et ils sont tous les trois, arrive Aymeric Chataigny à la vidéo, et voilà, c'est le staff. L'année suivante, ou en cours de saison, Goulven Le Garec va revenir les rejoindre, mais c'est la structuration se fait assez lentement. Moi, je me rappelle d'un souvenir, j'étais éducateur, et on avait, en tant qu'éducateur, on avait des formations en cours de saison, et Wilfried et Jean-Noël, qui étaient ont toujours gardé cette vocation d'éducateur, avaient accepté de recevoir un petit groupe d'éducateurs en formation à Vannes, alors qu'ils préparaient un match capital pour le maintien contre Aurillac. Et le matin, ils nous faisaient assister à leur séance vidéo, comment ils travaillaient à la vidéo. Alors, on voyait déjà que la vidéo avait pris une part prépondérante, qu'on n'était plus dans l'amateurisme et qu'on était vraiment plein pied dans le professionnalisme, mais on voyait aussi que c'était une petite structuration, que le staff était pas grand, que la communication, il y avait la com était gérée par une stagiaire, c'était balbutiant, c'était ces années pionnières qui sont assez sympas. Je pense que eux regardent des bons souvenirs, même si je pense que ça a dû être éreintant ces premières années quand on joue le maintien, quoi.
Et justement, moi je rebondis sur ce que tu dis, Laurent, cette consolidation du club au plus haut niveau, là, il y a quand même beaucoup de clubs qui ont failli hein, au moment de passer du monde amateur au monde pro. Van a pourtant réussi à passer cet obstacle majeur. Pour quelles raisons, selon toi, tu as commencé à les évoquer, mais qu'est-ce qui a fait finalement que Van a réussi là où beaucoup ont échoué?
Je pense que déjà, ça, il y a, bah, la réussite, elle tient beaucoup dans le staff, dans Jean-Noël. Là, ça, il connaît tellement bien le rugby, il passe beaucoup de temps, la qualité de son recrutement aussi, des joueurs qu'il a choisis dans son.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle être en direct. Et donc on a perdu donc notre invité.
Avant de récupérer Laurent là. Ce qu'on peut également, moi, ce qui me paraît assez, comment dirais-je, important et même spectaculaire, c'est que le RC Van, c'est un club qui a réussi à fédérer en fait tous les clubs de rugby breton. Hein, Laurent l'a dit, c'est une locomotive du rugby breton, et ils ont réussi à amener avec eux en fait tous les clubs du rugby breton. Par exemple, un petit exemple, cet après-midi, il y a les jeunes en fait du rugby Lannion Perros qui vont en fait voir le match ce soir là qui se déroule à la Rabine. Ils partent à 13h, ils vont visiter les infrastructures du RC Van, etc. Donc Van a réussi à embarquer avec eux en fait tous ces clubs de rugby breton, et ça lui donne une force impressionnante. Et ce que je veux dire également, c'est que au-delà de la En plus de ça, ils ont. Moi, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas, ils se sont pas, ils n'ont pas essayé de singer un petit peu les clubs de rugby du Sud-Ouest. On a dit que le rugby embarquait dans sa culture, toute la culture du Sud-Ouest, les chants, etc. Et quand tu vas à la Rabine, c'est l'hymne breton qui est chanté. C'est pas les fêtes de Mauléon. Voilà, ils ont réussi à créer, à amener cette culture bretonne qui fait leur ADN, et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de Bretons se reconnaissent dans le RC Van.
Et puis Laurent, hein, Jean-No Spitzer, c'est quand même l'âme de ce club. Van se différencie également par sa longévité incroyable avec son entraîneur.
Bah oui, c'est 18e ou 19e saison à la tête d'un club, c'est quand même assez remarquable. Je crois que c'est le dans le monde professionnel, c'est la longévité la plus importante. Pour revenir sur ce que dit à l'instant Damien, c'est vrai que cette identité bretonne avec l'RC Van, le chant du Brogoz à la Rabine, ça n'a rien d'artificiel, contrairement à ce qu'a laissé entendre le magazine Tampon qui nous fait un reportage en disant que c'était un peu marketing. À Van, c'est pas du tout marketing. Peut-être que le Brogoz Mazadou à Roazhon Park lors du Stade Rennais peut avoir un côté marketing, à la Rabine ça ne l'est pas. Les paroles du Brogoz, elles sont inscrites en grand dans le vestiaire du nouveau centre d'entraînement, d'un centre de performance du Lotto Sea Park, pour que les joueurs étrangers et les joueurs non-bretons s'en emparent. Et c'est le cas, parce que les joueurs comme Pat Leafa, Philippe Kitté, qui sont là depuis longtemps, un Australien, un Néo-Zélandais, je dis pas qu'ils connaissent les paroles du Brogoz, mais ils se sentent bien à Vannes et ils se sentent bretons. De toute façon, il y a inscrit en gros en Dossi Park, on ne naît pas breton, on le devient. Et je crois qu'un joueur qui signe à Vannes devient breton parce que il y a cette force de l'identité qui est loin d'être artificielle. Et pour revenir à Jean-Noël, évidemment, c'est la pierre angulaire de toute la réussite. Il a fêté ses 50 ans hier. Et bon, je lui souhaite un bon anniversaire et surtout de réussir son rêve absolu, c'est de mener son club de cœur en top 14, parce que il a eu des propositions il y a quelques saisons pour aller dans, parce que ses compétences sont reconnues évidemment maintenant que le Van sont reconnues au niveau national, pour aller dans des grands clubs, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est de garder son rôle d'entraîneur et de manager, et pas d'aller juste s'occuper de la mêlée au Stade Français ou d'avoir juste un petit secteur de jeu. Et je pense que s'il menait Van en top 14, ce serait un accomplissement exceptionnel. Alors évidemment, ça serait compliqué, mais malgré tout, il montrerait à la France du rugby, encore une fois, que toutes ses compétences, parce qu'elles sont énormes, sa connaissance du rugby, elle est énorme. Mais oui, voilà, lui et puis son entourage, son fidèle préparateur physique, Simon Boisbuche, qui est là aussi depuis le début, qui est un reçoit, et le Gouven Legaret, qui est aussi dans la réussite, qui a Clément Payen, qui est l'ancien demi-mêlée de la montée, qui est désormais directeur sportif. Il y a Martin Michel, qu'il faut pas oublier, ancien joueur de Fédéral 1, qui est directeur général du club. Vous voyez, il y a des anciens joueurs qui ont porté le maillot, qui sont dans des postes cruciaux du club. Ça aussi, ça fait partie de la réussite.
Ouais.
C'est fondamental, et je suis d'accord avec ce que dit Damien, c'est de ne pas avoir singé le Sud-Ouest, c'est cette identité forte, et puis de se baser sur les clubs bretons, d'être très ouvert au rugby breton. Il y a des passerelles importantes avec le REC, qui est le petit frère, qui est deux divisions en dessous, qui était l'année dernière qu'une seule division en dessous au national. Là, par exemple, il y a des jeunes joueurs qui ne passent pas l'échelon de la Pro D2 ou du haut de la Pro D2. Parce que quand on est en haut de Pro D2, c'est pas pareil qu'en bas de Pro D2, comme Edwin Vérité, là, Hippolyte Cornu, qui sont des joueurs qui ont brillé en espoir à Vannes, là, qui brillent en National 2 ou qui brilleraient au niveau national sans problème et qui font les bons jours du REC. Et là, il y a un prêt du Fidjien Batiba Saga qui apporte sa puissance aussi. Donc, il y a des très très bons. De toute façon, Kevin Courtis et Jean-Luc Pizzer sont très proches.
Justement, Laurent, là, si je me permets de te couper parce que je veux rebondir sur la formation. Donc, Nolan Le Garec, hein, est quand même pressenti pour démarrer la rencontre à Cardiff ce week-end face au Pays de Galles. Il est un petit peu le symbole, hein, de la réussite des jeunes Bretons dans le rugby. Derrière lui, on sait que de jeunes Bretons formés à Vannes, hein, comme Robin Tacola, Jean Costarmanac ou encore Corentin Mézou, qui est toulonnais mais qui a été formé à Vannes, jouent actuellement le tournoi des Destinations U20. Ils ont battu le Pays de Galles hier soir. Ils ont été formés au RC Vannes. Ça veut dire que le RC Vannes, c'est également une formation de très haut niveau.
Ah bah clairement, ça a toujours été... Ça a toujours été le cas, mais là, on arrive à une forme d'épanouissement et d'éclosion, parce que ça prend un peu de temps, la formation. Le centre de formation, ils ont remplacé, il y avait le pôle à Tours, parce que Nolan Le Garec, lui, a fait le pôle à Tours, les dernières générations du pôle espoir à Tours, et depuis, ce pôle espoir est arrivé à Vannes, et c'est vrai que depuis qu'il est à Vannes, il y a des joueurs de grands talents qui éclosent, et des joueurs bretons. Alors ça, c'est important pour que Vannes, justement, ait un œil sur la filière bretonne, parce que Mézou, les deux frères Mézou sont de Landerneau, il me semble, mais évidemment que quand ils se mettent à briller, ils vont à Vannes. Et l'objectif de Vannes, c'est de ne rater aucun jeune breton. Alors ils en ont raté un, ils ont raté Gaël Dréhan, qui est une sorte d'ovni.
Qu'on a eu dans l'émission, d'ailleurs.
Oui, d'accord, et qui est... Mais il y en a toujours des ovnis comme ça dans le rugby, et c'est ce qui rend aussi sympathique que tout se passe pas normalement par les filières. Mais globalement, Vannes ne rate pas un seul joueur. Gaël Dréhan au moins a fait les beaux jours du REC avant de briller à Toulon. Il a mis un doublé la semaine dernière.
Alors pour conclure, Laurent, le top 14 donc est à portée de main. Quelles sont les chances du RC Vannes?
Ça, je suis pas Madame Irma, évidemment. Et évidemment, il faut finir dans les deux pour s'éviter un barrage. C'est vu le parcours du combattant, tu disais que c'est un marathon, cette Pro D2, c'est 30 matchs, allez, 30 matchs vu que c'est 16 clubs, c'est déjà énergivore au possible. Spitzer parlait et il le dit toujours que c'est une lessiveuse, la Pro D2, plus encore que le top 14, parce que les effectifs sont plus gros, les staffs sont plus gros, les moyens sont plus importants. Eux, ils voyagent en bus la plupart du temps quand même, faut savoir ça. Donc quand on s'évite un match, c'est plutôt bien, il n'y a pas de question de rythme là-dessus. Donc être dans les deux, faire une demi-finale à la Rabine, l'objectif suprême, c'est d'aller en finale, de passer un gap. Et quand on est en finale, après il reste deux chances, c'est-à-dire que si on gagne la finale, on monte direct, et si on la perd, on fait un access match contre le 13e du top 14.
À domicile.
Après moi je peux pas prédire, on peut pas prédire, parce qu'imaginer que ce soit Montpellier qui soit 13e pour un access match, ça peut être compliqué. Après ils ont c'est toujours le club de top 14 qui a la pression. Après je sais pas, ce serait tellement fabuleux, ce serait très très compliqué évidemment, mais ce serait vraiment fabuleux, ça mettrait encore un coup d'accélérateur énorme sur le rugby breton.
Et encore
que la Coupe du Monde.
Et est-ce que tu penses que d'un point de vue des structures, le club, donc on est d'accord, ça serait fabuleux de les voir passer en top 14, bien sûr, on a tous envie, mais est-ce que tu penses que d'un point de vue des structures, le club est prêt à grimper en top 14? Je pense notamment au stade qui est un peu petit, quoi, pour le top 14.
Bah, on est à 12 000, il reste une tribune à refaire, la tribune nord, peut-être que ça s'accélérerait.
Décidément, on va pas y arriver.
Ouais, parce que forcément, la question qu'on peut toujours se poser, c'est que la montée, c'est bien, mais après le top 14, forcément, il y a encore un gap à combler. Bon, moi, je ne vais pas répondre à la place de Laurent, mais ouais. Moi personnellement, je suis assez optimiste.
D'accord.
Je pense que toutes ces années passées en Pro D2 leur ont permis quand même de se construire, de se structurer. Je pense, moi, qu'ils ont les moyens de passer au cap supérieur, hein, c'est mon avis personnel. Après, c'est sûr que je crois que leur budget à l'heure actuelle est de pratiquement 10 millions d'euros. Il faudrait quand même qu'ils multiplient quasiment le budget par deux. Donc il y aurait quand même du travail à l'intersaison pour réussir à faire en sorte qu'ils se maintiennent sereinement en top 14.
Damien, on va se retrouver dans un instant pour parler actualité, une actualité très compliquée pour l'équipe de France. Hein.
Bah oui, on va y revenir, mais bon, l'équipe de France, je l'ai dit déjà dans cette émission, il ne fallait pas espérer grand-chose malheureusement de ce tournoi avec une équipe de France qui est un petit peu en reconstruction et qui sort d'un match nul assez piteux à Lille face à l'Italie. Donc voilà, c'est un moment difficile pour les hommes de Fabien Galthié. Ils vont à Cardiff, à mon avis, pas en position de favori ce week-end. Voilà, il faut qu'ils s'accrochent, c'est un moment difficile à passer.
On en parle après, Damien.
On en parle après, ça marche.